おかしいおかしい
Bonsoir et bonne fête d'indépendance à toute célébration du 50e de l'indépendance de la RDC. Quel bilan et quelle perspective sur le plan politique? Nos invités sont N'Golo Bangampongo Bakokele Lokanga, pionnier de l'indépendance, ancien vice-premier ministre, ancien ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur et ancien gouverneur de province, actuellement sénateur. Soyez le bienvenu, monsieur N'Golo. Soyez le bienvenu.
Merci.
Voilà.
Mais je n'étais pas revenu de la justice.
Voilà, merci pour le rectification.
L'intérieur, l'agriculture, travaux publics.
Merci, c'est bien dit. Germain Mbeko, il est historien, il est avec nous dans ce studio. Bonsoir, monsieur Mbeko.
Bonsoir, Alain.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. C'est maître Azarias Roubéroy, ancien vice-président de la République. Vos réactions, elles, nous les avons déjà dans ce studio. Richard Coubé de Sherbrooke au Canada. Mais je pense que le développement de la RDC devra nécessairement passer par l'instauration de l'éthique à tous les niveaux. Il faudra surtout bannir le culte de la personnalité, réduire la distance hiérarchique entre les gouvernants et les gouvernés. Jean-Pierre Chama de Kinshasa, pour qu'il y ait un changement durant les 50 prochaines années, il faut d'abord procéder à un changement d'animateur qui puisse donner une vision nouvelle de la gestion de la chose publique et surtout un changement des mentalités au sein de la population. Merci de nous suivre en FM sur toutes les tendues de la République démocratique du Congo et partout au monde sur RadioCapri.net. Bienvenue à cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 678 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
France 1, 1960, 30 juin 2010, cela fait exactement 50 ans jour pour jour que la République démocratique du Congo a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Le 50e est un moment particulier d'évaluation en vue d'un nouveau départ. Ces propos ne sont pas miens, ils sont du chef de l'État Joseph Kabila, tiré de son discours pour la circonstance. Le chef de l'État a dans ce discours salué les avancées indéniables dans divers secteurs, mais a aussi reconnu que le Congo a connu des regrettables ratés, notamment en matière de développement. On écoute le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, dans cet extrait choisi par Kylian Kouté.
Le 50e n'est pas un anniversaire ordinaire. C'est un moment particulier d'évaluation en vue d'un nouveau départ. Où en sommes-nous donc aujourd'hui, 50 ans après le 30 juin 1960? Il est indéniable que nous avons connu des victoires remarquables, et c'est notamment le cas de la préservation de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, du rétablissement de la paix à l'intérieur du pays et avec nos voisins, de la réconciliation nationale, l'instauration du multipartisme politique et syndical, de la libéralisation des médias et de l'économie, de la transition consensuelle qui a permis des élections libres, transparentes et démocratiques. Il est également indéniable que nous avons aussi connu de regrettables ratés, notamment en matière de développement, de progrès social et des droits humains. Comme nation et comme peuple, nous sommes, quoique de degré divers, collectivement responsables de cette relative insuffisance de performance. Pour l'heure, l'urgence consiste à recenser nos actes, mais aussi nos faiblesses pour mieux baliser l'avenir.
Monsieur Ngolo Bangampongo Bakokele Lokanga, on vous a présenté, vous avez occupé plusieurs fonctions hein, politiques dans la territoriale. Vous venez de suivre le bilan présenté par le président Joseph Kabila, le bilan de 50 ans, la préservation de l'unité nationale, l'intégrité territoriale, le rétablissement de la paix intérieure et avec les voisins, la réconciliation nationale, le multipartisme. Quelle est votre analyse par rapport à ce bilan?
Parfaitement d'accord avec le président de la République qui a fait un très bon résumé. Mais le problème n'est pas au niveau des discours. Le problème est au niveau des mentalités. Au niveau de l'esprit qui doit animer le travail à faire. Ça, c'est mon point de vue.
Au niveau des mentalités, mais sur le plan politique, 50 ans, la mentalité a-t-elle évolué, a-t-elle régressé d'après vous?
C'est une question très complexe. À mon avis, il faut faire l'analyse complète de la situation actuelle. Nous sommes dans la démocratie, il y a une constitution, mais est-ce que cette constitution nous convient à la table ronde de politique? À Bruxelles, nous avions choisi le régime parlementaire. À la suite du coup d'État du 25 novembre 1965, nous avons maintenant un autre type de régime, le régime présidentialiste. Est-ce que c'est ce régime qui convient ou le régime parlementaire qui convient? Ça, c'est la question qui se pose au niveau politique. Parce que tout dépend de cette constitution.
Mais alors, par rapport, vous parlez du type de régime, mais par rapport aux résultats que nous connaissons aujourd'hui, comment vous répondez vous-même à cette question que vous posez?
Comme le président a dit lui-même, il y a des avancées. Il y a des avancées. Mais il y a une opposition qui n'est pas satisfaite. L'opposition dit qu'il n'y a pas de démocratie. Pourquoi? L'opposition l'a déjà dit. Il y a beaucoup de choses à corriger en ce qui concerne la liberté d'expression, par exemple. Ça, vous voyez.
Mais il y a également beaucoup d'observateurs politiques et sociaux, des acteurs politiques, même de la majorité, qui ont reconnu que les 50 ans, par exemple, sur le plan politique, c'était un véritable gâchis.
Ah, nous retournons à 50 ans. Mais vous m'avez posé la question ici, sur le présent, en quelque sorte. Et je vous ai dit que pour le présent, il faut considérer la chose au niveau du régime lui-même que nous sommes en train de pratiquer maintenant. Mais sur les 50 ans, il faut faire une distinction, il faut faire un peu voir les étapes. De 60 à 65, c'était la démocratie, malgré qu'il y a eu des problèmes, les sécessions, les difficultés économiques. Mais il y avait en quelque sorte une démocratie, mais ça n'avait pas donné satisfaction puisque il y a eu les idées de certains députés, de certaines personnalités. Mais les 50 ans, il faut voir le résultat des 50 ans, non seulement au niveau politique, mais également au niveau économique. Et alors au niveau économique, c'était très très satisfaisant. Au niveau politique, évidemment, il y a eu des interventions étrangères qui ont créé des problèmes, il y a eu la guerre froide et tout. Mais dire que c'était un gâchis complet, pas un gâchis complet.
Maître Azarias Rovéroa, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes ancien vice-président de la République. Vous nous avez pris en cours hein, quand on suivait le bilan présenté par le président de la République. Donc, en deux volets, vous donnez votre analyse par rapport au bilan présenté par le président de la République ainsi que votre bilan des 50 ans d'indépendance sur le plan politique.
Bien, merci. J'ai suivi les discours du président. Il a reconnu qu'il y a eu des avancées, mais en même temps, il a reconnu de manière indéniable qu'il y a eu des ratés. Le mot, je le prends dans son propre discours. S'il voulait dire par là que le bilan est mitigé, c'est bien vrai. On ne peut pas dire que tout est rose, on ne peut pas dire que tout est noir. Mais en même temps, lorsqu'il parle d'une relative insuffisance, je ne crois pas en ce concept-là de relative insuffisance. Il y a eu énormément d'insuffisance. Si vous voulez, le bilan est négatif. Lorsqu'on dit que le bilan est négatif, de manière honnête, on ne met pas tout le poids de la responsabilité au gouvernement actuel, aux dirigeants actuels. La responsabilité partagée, il y a eu une succession, si vous voulez, des gouvernements, des dirigeants, des institutions, et donc chacun porte la responsabilité de la période où il a régné, où il a dirigé. Mais si vous voulez, 50 ans après, nous devrions faire un bilan beaucoup plus positif qu'une année aujourd'hui. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, et que sais-je encore, même sur le plan de la réconciliation. J'ai eu l'impression, en participant ou en assistant à ces manifestations aujourd'hui, un homme d'État en service président de la République et non un président de parti politique, forcément. J'ai donc l'impression que même la préparation ou les préparatifs de ce cinquantenaire ont été l'apanage du gouvernement et de ceux qui sont au pouvoir. Il aurait fallu associer le maximum de gens, l'opposition y compris, parce que c'est une question de la patrie, c'est une question nationale, et non pas simplement privilégier, si vous voulez, une fête au sens des gouvernants. Là, j'évoquais l'aspect réconciliation. Je pense que 50 ans après, nous avons pas mal de questions au niveau national et même au niveau local, c'est-à-dire dans certaines provinces, où il faut encore travailler sur la réconciliation et créer cet esprit, si vous voulez, patriotique au sens de la nation. Je vois le bilan au niveau politique. Certes, aujourd'hui, nous parlons du multipartisme comme aux premières heures, aux premières années après l'indépendance. Donc, on a retrouvé la démocratie en termes de multipartisme, mais en termes de force de la démocratie. Évidemment, nous sommes encore très loin. On est au niveau de ABC, je dirais, de l'alphabet, de la démocratie. Lorsque je vois son contenu par rapport aux droits de l'homme, il n'y a pas longtemps, on a vécu l'assassinat ou meurtre, selon celui qui parle de militants des droits de l'homme, justement à la période où on attendait ce cinquantenaire, et tué de près ou de loin par la police nationale. Je sais qu'il y a des enquêtes en cours, mais c'est des présomptions quasiment irréfragables. Donc, il y a ce côté-là de problème. Au niveau de la liberté de presse, il y a encore des matières sur lesquelles il faut travailler. Mais comme le président l'a reconnu, sur le plan social et sur le plan développement, c'est encore davantage une catastrophe, à mon avis. Et l'éducation, et la santé, et les infrastructures de base, tout est à recommencer. On dirait même que certaines infrastructures et certains domaines étaient encore mieux au moment de la colonisation, c'est-à-dire jusqu'en 1960. Donc, nous devons nous regarder dans le miroir de manière sérieuse si nous voulons que nous-mêmes ou la génération qui suit fête le prochain cinquantenaire avec honneur. Nous devons, si vous voulez, réparer le temps.
Germaine Beko, vous êtes historien. Le président Joseph Kabila a évoqué les ratés, notamment dans le domaine du développement, du progrès social, des droits humains. Et la responsabilité, à son avis, est collective. Est-ce que vous, quelle est votre analyse?
Alain Jong, moi je partage à 100% cette analyse du chef de l'État, dans son discours que j'ai suivi religieusement à la mi-journée. Je suis tout à fait d'accord avec le chef de l'État. Je voudrais d'abord donner deux points, pour dire deux points, comme je suis d'accord aussi avec certaines analyses de ceux qui m'ont précédé, mais pour ce qui est de l'honorable Ngoulou. Il y a un petit point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui quand je suis dans les éléments historiques et avec le vice-président Roubéroy quand il parle du fait qu'on n'a pas associé tout le monde à la préparation du cinquantenaire. Je commencerai donc parce que l'honorable Ngoulou a dit que sur le plan économique, c'était une réussite. Si vous puisez dans les éléments historiques, ça ne pouvait pas être une réussite sur le plan économique pour deux raisons. La première est la raison majeure, c'est que l'État, le Congo, disons la République démocratique du Congo en 60, c'était un État qui démarre sans moyens. L'État démarre sans moyens. Pourquoi? C'est parce que avec tous les discours, je dois dire incendiaires des hommes politiques à l'époque, lorsque Patrice Lumumba revient d'Accra, quand il fait son discours le 28 décembre 1959, en disant que 158-58, en disant que l'indépendance s'arrache, ceci ça ne s'arrache plus, ça n'a pas de valeur. Ça donne le cœur à la colonisation belge. Ce qui fait que entre les deux conférences de la table ronde politique et de la table ronde économique, l'État, la colonie belge, transfère presque toutes les réserves de la Banque centrale à l'argent liquide évalué à 5 milliards de francs de l'époque, les réserves en or, en diamant, transfère ça en Europe. Ce qui fait que quelqu'un comme Kassavubu, qui était intransigeant, a refusé de participer à la table ronde en évitant d'aller faire valoir, d'avoir assisté en fait à une table ronde économique où presque toute la substance de l'économie du pays était déjà transférée en Europe. Ce qui fait en fait que je peux prolonger là-dessus, on n'a pas beaucoup de temps, pour donner des éléments économiques, des difficultés économiques avec lesquelles l'État a commencé. Si vous ajoutez maintenant à cela l'impréparation des Congolais pour gérer des cadres pour gérer le pays, vous voyez donc que c'était un problème. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette réussite économique. Je reviens donc pour la récrimination que fait le vice-président Roubéroy à l'endroit du gouvernement, même si je ne suis pas du gouvernement, je suis analyste politique, qu'on n'a pas intéressé tout le monde. Mais si j'ai bien suivi, j'ai appris que les gens de l'opposition avaient boycotté la fête du cinquantenaire. Ils ne pouvaient pas y participer parce que, bon, on avait un bilan négatif, raison pour laquelle ils n'ont pas participé. Mais moi, j'ai apprécié une chose de l'attitude du chef de l'État, c'est le fait de voir à cette cérémonie-là la présence du président Kagame, la présence du président Museveni, avec ce que nous avons connu, la présence de ces deux chefs d'État, qui semble-t-il se sont fait applaudir, moi j'étais pas là, c'est une marque de consolidation des relations, c'est un point très positif actuellement dans la politique que mène le gouvernement.
Mais en interne, Maître Azarias Roubéroy a dit qu'il y a plutôt à relativiser quant à la réconciliation nationale.
Bon, je pense quand même que ça, ce sont des faits assez marquants, et moi je n'ai pas terminé, parce qu'en fait, une attitude, une école dans laquelle nous sommes ici, quand on est au pouvoir ou dans l'opposition, on a plus ou moins le principe de contredire ce que fait l'autre. Mais moi, je suis vu dans les discours du président Kabila, en ce qui concerne, par exemple, l'hommage aux anciens chefs de l'État. Je trouve surprenant et je suis surpris agréablement qu'il évoque l'hommage du président Mobutu, celui qui est récriminé par tout le monde, qui vient d'être chassé, qui a été chassé du pouvoir par son père. Je trouve que ça, c'est un élément important sur lequel il faut insister sur ce qui est de la réconciliation des hommes politiques.
Honorable Ngoulou, est-ce à tort aujourd'hui que certaines personnes continuent à accuser le colon belge de n'avoir pas préparé le Congolais à diriger la société, la cité?
Je voudrais d'abord me faire comprendre quand j'ai dit que dans la première étape, qu'il y avait l'économisme transformé. L'infrastructure économique, quand Mobutu arrive au pouvoir, il trouve une infrastructure économique solide. L'union minière est là, les agro-industries fonctionnent, exportent. Certaines sociétés minières, par exemple, la minière de l'Amiba, ça fonctionne. Les services de transport, l'Olatra, ça fonctionne. Le chemin de fer, ça fonctionne. Ça, c'est l'infrastructure écologique. Donc, vous avez trouvé que tout ça fonctionnait très, très bien. Quant au transfert des titres, les Belges avaient occupé avant l'indépendance, ça, c'est différent. Mais je n'ai pas voulu parler de ça, j'ai parlé de l'activité économique comme telle.
Alors, nous allons à présent écouter certains Congolais qui dressent leur bilan sur le plan politique 50 ans après. Ils sont interrogés par nos collègues du réseau Kati dans les provinces du Katanga, du Bas-Congo, du Kassai-Oriental et la province orientale.
Clément Bangoubou-Lotika, la Kitsangani. Les bilans politiques se situent en deçà des espérances des populations. Vous devez vous rendre compte que l'indépendance intervient si elles sont des crises déjà. Il y a comme sorte d'impréparation. Le président révoque le premier ministre révoque le président, ce qui fait que cette impréparation nous poursuive jusqu'à aujourd'hui.
Quand ce sont là, en plus ou moins, sur le plan politique, nous pensons que c'est une régression. Parce que dans l'État, bien qu'il n'existe pas les multiples, bien qu'il y avait les partis états ou que l'époque des Belges là, il régnait à maître. Les gens vivaient bien. Mais maintenant, avec le multipartisme, avec les semblants de démocratie, les gens sont en train de croupir dans une misère qu'on ne sait pas qualifier.
Oui, Ben Boujimaï. Si le plan politique ou si le plan économique, c'est un échec à 100%. Je me demande pourquoi est-ce que les gens là ont demandé l'indépendance pour nous. Ils ont chassé les blancs qui nous payaient ici, qui nous nourrissaient, qui nous tenaient gratuitement, on les a chassés. Ils viennent nous tromper.
Robert, j'appelle Ben Boujimaï. Pourquoi est-ce que le bilan est négatif? Parce que avant l'indépendance, c'était mieux qu'après l'indépendance. Nous n'avons plus d'infrastructures, rien n'est arrangé au pays.
Ben Matondo, je suis à Makadi. Je crois que le bilan est très négatif. Parce que jusque-là, depuis l'indépendance, nous n'avons rien requis de ce qui pouvait donner l'espoir au peuple congolais.
Le bilan est négatif. Parce que nous avons perdu énormément. Le 30 juin 1960, le Congo belge était une des colonies la mieux développée au point de vue infrastructure. Je vous dis que le Sud-Africain, les Indiens venaient se faire soigner ici, venaient acheter des légumes de Moba.
Maître Pasaria sur des rois, les auditeurs également reviennent sur cet aspect en préparation. Je reviens sur la question que j'ai posée tout à l'heure à l'honorable Ngoulou. Est-ce à tort ou à raison que certains observateurs continuent aujourd'hui à incriminer le colon belge de ne pas avoir préparé le Congolais à la gestion de la cité?
Disons, mon point de vue, c'est que là aussi, la responsabilité est partagée. Il y a la responsabilité des colons qui n'ont pas assez préparé, si vous voulez, la relève. Mais là, c'était, si vous voulez, compréhensible, peut-être les 10 premières années. Nous faisons un bilan de 50 ans. Donc, comme je l'ai dit, à chaque période, on a eu un régime, on a eu des dirigeants. Ils ne peuvent pas tout reporter sur les épaules des Belges. Les Belges ont les responsabilités, mais il me semble, 50 ans après, que de manière honnête et sincère, la plus grande responsabilité est la nôtre. Parce qu'il y a des pays africains, pour ne citer que ceux-là, qui, aujourd'hui, en faisant le bilan de 50 ans, ils sont beaucoup plus améliorés en termes de bien-être. Je vais vous donner quelques exemples. Prenez un cas comme le Kenya ou l'Éthiopie. Leurs compagnies font chaque jour au Kinshasa, à Addis Abeba ou au Kinshasa, à Nairobi. Ils viennent puiser, si vous voulez, des ressources en termes de frais de voyage. Nous avions connu Air Zaïre. Et 50 ans après, on ne sait pas faire. C'est des Africains qui gèrent. Notre pays en 60 était au même niveau, si pas mieux, que la Corée du Sud, le Canada et la Corée du Sud. Aujourd'hui, le Canada participe aux réunions de G8, d'ailleurs, la réunion d'il y a deux jours, cette nuit au Canada, de G8. La Corée du Sud est la 10e puissance mondiale, économique, 100 ans. et l'Afrique du Sud est la première puissance du continent. Nous ne sommes même pas au niveau des secondes ou au niveau des dizaines ou des trentaines. Nous sommes très très en bas de la page. Lorsque vous lisez le rapport de la Banque mondiale, nous venons à 182e position, 183e pays, si vous voulez, en termes de commerce des affaires. Donc, la situation amère dans laquelle se trouve la population, et le résultat, bien sûr, des colonisateurs à un certain niveau, mais 50 ans après, nous devons assumer. Mon problème est celui-ci. Si nous n'assumons pas notre responsabilité, si nous ne réalisons pas la hauteur, la grandeur, la profondeur de notre responsabilité, je pense que 50 années prochaines, nous ne puissions encore en train de chercher de responsabiliser les autres. Je crois que nous devons décoller, il est temps, mais en même temps, il faut assumer sa responsabilité.
Germain Beko, il y a cet auditeur Mouland Delphin de Colézo Katanga qui dit « Durant les 50 ans passés, rien n'a changé. Par contre, c'était une période des hommes politiques qui s'enrichissaient au détriment de la population qui est restée distraite. Vous avez également suivi les auditeurs qui ont été interrogés par Radio Capi. Peut-on dire que le Congolais, finalement, s'est senti abandonné, oublié ?
Bon, je dois dire que votre question, c'est plutôt une conséquence peut-être de la situation. J'analyse et je suis tout à fait d'accord avec les points de vue, disons, des auditeurs, ainsi que l'analyse que vient de faire le vice-président Roubaix-Roy. Rappelons quand même que ce n'est pas une observation vaine que de dire qu'il n'y a pas eu préparation. C'est un peu comme disait Raoul Peck, qui a écrit un livre Lumumba, Lumumba, la mort du prophète, qui dit que l'indépendance qu'on a donnée aux Congolais se commence comme un pilote dans un avion, il décolle avec un apprenti, il a la vitesse de croisière, et puis il laisse les commandes à l'apprenti pour dire bon, vous pouvez maintenant voler. Vous imaginez les conséquences. Et ce sont justement les conséquences qu'on a vécues et qui expliquent en partie, parce qu'il faut tout relativiser, les ratés dont le chef de l'État a notamment parlé. Mais là où je partage à 100% le point de vue du vice-président Roubaix-Roy, c'est quand il dit que, bon, 5 ou 10 années avant, d'accord, mais après, on va quand même continuer à dire que c'est de leur faute, alors que nous avons notre destin en main, nous devons dire que, par exemple, la dictature des 30 et 32 ans qu'on a connue nous a mis pas par terre, mais sous terre. Et ça, et le Congo, son économie, son organisation politique, vous avez parlé de la mentalité, tout a été, tout a été pratiquement réduit au néant. Je ne veux pas dire par là que le président Mobutu n'a pas fait de bonnes choses, ça d'accord, mais écoutez quand même que, comprenons quand même qu'avec la dictature pendant un temps aussi prolongé, le pays a changé de mentalité et en ce moment-là, tout ce que nous regrettons pour la plupart, ça vient de cette période-là.
Honorable Ngolo, le président Kabila a dit que la responsabilité collective elle était partagée, mais vous par exemple qui avez occupé plusieurs fonctions, ne pensez-vous pas qu'en suivant les auditeurs par exemple, la classe politique devrait demander pardon à ce peuple?
Vous savez, dans mon introduction, j'ai voulu faire la distinction entre le régime parlementaire et le régime présidentialiste que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. Le professeur vient d'évoquer un peu la dictature du président Mobutu. Dans la première législature, on n'avait pas de dictature. Les gens se travaillaient. Mais il n'y avait pas de dictature. C'est à partir de la Deuxième République, donc avec sa constitution, que la dictature s'est installée chez nous, avec le coup d'État. Alors il faut toujours faire cette distinction-là pour savoir si nous sommes dans le bon ou si nous ne sommes pas dans le bon. Qui est responsable de la situation actuelle? Le président Roubaix-Roy dit qu'il ne faut plus voir la colonie. C'est trop loin. C'est nous qui sommes responsables de ça, de cette situation, de cet appauvrissement, de ce marasme économique. C'est nous. Mais pourquoi? Alors moi, j'interroge la Constitution. Qui permet qu'on n'avance pas? Qui permet qu'on sente encore comme si on était dans la Deuxième République? Où peut-on trouver la justification? Moi, je crois que c'est au niveau politique. Et au niveau politique, c'est toujours, il faut toujours interroger la Constitution qui donne des pouvoirs.
Et c'est aussi la Constitution qui a permis à certains politiciens de se remplir les poches.
Bien sûr, je vous dis que ce régime-là, ce régime présidentialiste, présente beaucoup d'inconvénients. Et si nous analysons ce régime présidentialiste, nous allons trouver la cause de ce qui ne va pas.
Alors, nous allons aborder la deuxième partie de cette émission. Quelle perspective sur le plan politique pour le chef de l'État, Joseph Kabila? Il faudrait une véritable révolution morale pour que les 50 prochaines années soient meilleures que les dernières. Écoutons une fois de plus le président Joseph Kabila Kabangé dans cet extrait choisi par Kevin Couté.
Au moment où nous franchissons le cap du cinquantenaire et tournons le regard vers le centenaire, notre devoir est de tout mettre en œuvre pour que les 50 prochaines années soient à tout égard meilleures que les dernières. À cet instant, il est important de souligner que l'insuffisance de ressources n'est pas le problème fondamental du développement. Le développement est d'abord et avant tout une question de vision politique, de culture managériale, d'ordre, de discipline politique. Pour atteindre nos objectifs, il nous faut en plus engager de manière résolue une véritable révolution morale. Nous devons bannir et punir sans complaisance l'atteinte à la vie et à la dignité humaine. Le viol, le tribalisme, le régionalisme, le favoritisme, l'irresponsabilité, le vol, le détournement de biens publics, ainsi que toute autre forme d'antivaleur. Nous devons chérir et appliquer dans toutes nos actions le culte de l'excellence, de la transparence et de la méritocratie. Nous devons faire preuve de patriotisme en privilégiant en toutes circonstances l'intérêt de la nation sur les intérêts individuels ou partisans.
Maître Azarias Roubéroy, en suivant ces éléments qu'évoque le président Kabila, une vision politique, la culture managériale, une discipline politique, une véritable révolution morale, punir les viols, bannir les assassinats, ainsi de suite, est-ce du déjà entendu?
Oui, c'est le problème. Vous l'avez bien deviné. Sur le plan textuel, ce discours est très appréciable, notamment cette partie que nous venons d'entendre. J'ai été dans les mêmes circonstances, j'aurais rédigé dans les mêmes mots et j'aurais lu, si vous voulez, à l'intention de l'opinion. Mais des discours, Mobutu en a fait. Et pas seulement Mobutu, ses prédécesseurs ou ses successeurs en ont fait. Mon problème, c'est la faisabilité de ce que dit le président. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il évoque comme remède, mais c'est dit déjà, entendu, même dans ses propres discours. Lorsque vous prenez le discours du président à l'investiture, il a parlé de la fin de la récréation, il a parlé de la sanction, il a parlé de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption. Donc, il n'y a rien à ajouter par rapport à ce qu'il dit. Mais je pose la problématique de la mise en œuvre. Et là, si vous voulez, sans aller totalement dans le même sens que le nez Ngoulou, mais j'emprunte un peu de son argumentation. Le texte, la Constitution, il est évident que, selon la Constitution, nous ne sommes pas dans un régime présidentialiste. Peut-être dans les faits, on est dans un régime semi-présidentiel. Mais s'il advenait que le président prenne tout le pouvoir, si c'est ça le fait, et du premier ministre et du gouvernement, alors évidemment, on tombe dans un régime présidentialiste. Mais ce que je voudrais ajouter comme une poutre ici, c'est d'interpeller le gouvernement et au premier chef le président de la République pour que son discours ne reste pas lettre morte. Si une année après, parce qu'il reste une année et six mois de mandat, du moins il reste une année et quelques mois de mandat, si même dans cette période qu'il reste de mandat, il ne met pas en pratique lui et le gouvernement, ainsi que les autres institutions, ce qu'il vient de dire, évidemment, le centenaire sera un bilan aussi médiocre ou relatif. Mais lui-même et ceux qui lui succéderont. Donc, le discours, on sait bien le faire dans ce pays. Et on est savant à discours. Mais la faisabilité, c'est autre chose. Par exemple, la sanction, la justice, où est-ce qu'elle est, hein, aller dans les cours de tribunaux, la situation des fonctionnaires, et qu'est-ce que j'ai encore? Donc, je n'ai pas de commentaires à ajouter sur les discours, j'apprécie la rhétorique, mais j'interpelle les dirigeants au niveau de la faisabilité.
Honorable Ngolo, comment concrétiser tous les vœux émis par le président Kabila pour les 50 prochaines années?
Moi, je reviens toujours sur ce que je viens de dire, évidemment. Je voudrais, sur la sémantique présidentialiste et présidentielle, c'est pratiquement la même chose. Tant que nous aurons un régime parlementaire rationalisé, c'est-à-dire que le Parlement est inférieur à l'exécutif, l'exécutif est prépondérant par rapport à l'exécutif, au législatif, ça ne marchera pas. Parce que on sent, je suis sénateur, je suis au Parlement, mais nous sommes impuissants vis-à-vis de l'exécutif. Surtout au niveau budgétaire, ce qui est important, c'est le budget. Il y a des gens qui gèrent, mais qui ne peuvent pas être contrôlés. Si les gères doivent être contrôlés. Et tant qu'il y a qui gèrent, mais qui ne peuvent pas être contrôlés, comment pouvez-vous arriver à remédier à la situation que nous avons? C'est impossible, d'après moi.
Donc, ça ne risque de rester que des vœux pieux.
Non. Il faut alors que les gens, les hommes qui dirigent changent. C'est pour ça que je parlais de mentalité au début. Je m'en laisse juste le discours. Le président, comme vous l'avez dit, le président Bouto a fait beaucoup de discours. Mais c'est au niveau de l'esprit de ceux qui dirigent. Si c'est l'intérêt général, si c'est l'honnêteté, l'intégrité, alors ça va marcher. Mais si c'est pas ça, ça ne marchera pas.
Écoutons cette fois-ci quelques Congolais, une fois de plus, qui font des propositions pour améliorer le plan politique pour l'avenir. Ils sont une fois de plus interrogés par nos collègues du réseau Okapi dans les provinces du Bas-Congo, du Katanga, la province orientale et la province du Kasaï-Oriental.
Clément Bangoubou-Lotika, je suis à Kitsangani. Nous pensons qu'il faudra que les Congolais se ressaisissent, que les Congolais et les Congolaises acceptent de se reconvertir, de comprendre que la politique, ce n'est pas un jeu des hasards, c'est un jeu qui se prépare et il faut qu'il y ait des champions, il faut qu'il y ait des gens rodés, des gens aguerris.
Pour moi, ce qu'il faut faire, il faut un régime responsable. Peut-être, je ne sais pas, comme les Congolais sont incapables, qu'on amène les Blancs et qu'ils viennent encore diriger ces pays pendant un temps. Quand ils auront la maturité, à ce moment-là, ils vont encore demander l'indépendance. Ce n'est pas un péché de demander deux fois l'indépendance.
Pour nous, c'est manger. Je travaille, je paye mon salaire, je paye mon honoré, mes enfants, ils vont à l'école, j'ai un loyer. C'est ce qui est important.
J'ai dit que la judiciaire est une bagarre. Ce qui peut être amélioré pour les 50 ans à venir, c'est consolider les acquis de la démocratie formant acquis et promouvoir les annonces démocratiques.
Nous demanderons toujours à l'homme politique de demain de changer d'abord la mentalité, de sorte que le travail puisse prendre une allure convenable, à sorte que la population puisse se retrouver sur le plan social. Or, la politique doit définir le social des gens. Et si la mentalité n'a pas encore changé, le social des gens ne changera pas. Raison pour laquelle nous, comme activistes défenseurs des droits de l'homme, nous demandons à l'homme politique de revoir son comportement politique sur le plan social pour que la population congolaise puisse puisse applaudir demain de revoir un monde meilleur au Congo.
Et Germain Beko, en plus de ses auditeurs, il a dû donner le sac à Bambandaka l'Équateur qui dit je pense que le bilan de la gestion de notre pays 50 ans après est largement négatif, que nos dirigeants politiques arrêtent de trouver des justifications à cette descente aux enfers de la RDC. Comme perspective, il faut la bonne volonté politique pour savoir déterminer le profil d'homme pour les prochaines années.
Oui, Alain, je viens de suivre tout ça et je n'ai pratiquement rien à dire dans ce que les auditeurs viennent d'évoquer. Ce que j'ai remarqué est que tous les auditeurs parlent le même langage et ça se résume en fait à ce que le vice-président Roubero a dit, c'est un problème de mentalité. Les auditeurs demandent à l'autorité de changer. De changer de mentalité pour que de nouveau la population puisse croire donc en cette autorité-là. Or, ce n'est pas très difficile de changer pour que la population puisse y croire. En me promenant dans les rues de Kinshasa, quand on a commencé à travailler sur le boulevard, vous savez que beaucoup de gens n'y croyaient pas. Mais quelques temps après, j'ai trouvé beaucoup de gens dans la rue qui vous disent « Ah, Biro Koyango, on dirait, hein, ça veut dire beaucoup de choses. Donc ces histoires-là, on n'y croyait pas, mais on dirait que c'est vrai, que c'est sérieux. Il suffit de petits gestes comme ça, et les gens vont reprendre la confiance.
Pour se crédibiliser.
Pardon ?
Pour se crédibiliser.
Pour se crédibiliser. Pour se crédibiliser depuis le changement, la volonté, comme il vient de dire, la volonté change de mentalité pour que la population croit. Parce que le discours, c'est vrai, comme disait le vice-président Roubero, on en a entendu beaucoup, mais il faut une fois casser ça. Il faut casser cette mentalité, il faut casser ce qui prévaut dans l'opinion pour dire, en fait, c'est ce qu'ils ont toujours dit, mais on ne voit aucun changement. Et le problème du boulevard des travaux qu'on a fait ici, j'ai entendu ça, les gens disent, « Biro Koyango, on dirait, hein ».
Alors,
c'est important.
En guise de conclusion, Germain Beko, l'honorable Ngoulou est revenu sur le système politique.
Bon, je crois que le système politique, je parle plutôt de la Constitution. Je préfère parler de la Constitution parce qu'en fait, tous les hommes politiques se mettent quand même d'accord sur, se sont mis d'accord pour mettre en place la Constitution que nous avons. Le tout, c'est de respecter cette Constitution-là. Moi, je pense que c'est ce qui est beaucoup plus important. Parce qu'assez souvent, les dérives que l'on regrette ou qu'on a regrettées lors des constitutions passées, c'est qu'on a mis en place une constitution dont finalement on n'a pas à respecter une grande partie du contenu.
Honorable Ngoulou, nous abordons pratiquement la dernière partie de cette émission. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Les Belges, le roi Baudouin en partant, nous avait dit ne compromettez pas l'avenir par des réformes hâtives et ne remplacez pas les organismes que vous remet la Belgique tant que vous n'êtes pas certain de pouvoir faire mieux. De 60 à 65, voire de toutes les étapes, on n'a pas bouleversé.
Alors allez-y rapidement parce que nous allons que tu
mais de 65 à ce jour, on ne fait que changer, on ne fait que bouleverser et on ne stabilise pas.
Merci, honorable. Maître Azarias Roubero, un mot en guise de...
Oui, disons un mot en deux fois. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut la culture des valeurs. L'intégrité, l'honnêteté et d'autres valeurs semblables, ainsi que la punition. La deuxième chose, c'est qu'il faut l'exemple. Les dirigeants doivent se montrer exemplaires. La troisième, c'est qu'aux prochaines élections, il faut tenir compte du profil des candidats et des dirigeants. La quatrième chose, c'est qu'il faut respecter la constitution qui a prévu la forte décentralisation, mais qu'on veut remanier, ça veut dire revisiter, justement, en enlevant ce qui devrait permettre le progrès et le développement des provinces et du pays.
Merci, c'est par vous que nous terminons cette émission. Merci de votre attention et bonne fête d'indépendance sur toute l'étendue de la République. Au revoir. Thank you.